il n'y pensa plus du tout. De nouveau, il s'abandonnait, mangeait ce que lui servait Martine, ne s'apercevait même pas du strict bien-être qu'elle remettait autour de lui. À genoux, en adoration, déchiré de toucher à son petit trésor, mais si heureuse de le nourrir maintenant, sans qu'il se doutât que sa vie venait d'elle. D'ailleurs, Pascal ne la récompensait guère. Il s'attendrissait ensuite, regrettait ses violences. Mais dans l'état de fièvre désespéré où il vivait, cela ne l'empêchait pas de recommencer, de s'en porter contre elle au moindre sujet de mécontentement. Un soir, qu'il avait encore entendu sa mère causer sans fin au fond de la cuisine, il eut un accès de colère furieuse. « Écoutez-moi bien, Martine. Je ne veux plus qu'elle entre à la souleillade. Si vous la recevez une seule fois en bas, je vous chasse. » Saisie, elle restait immobile. Jamais, depuis 32 ans qu'elle le servait, il ne l'avait ainsi menacée de renvoi. « Oh, monsieur, vous auriez ce courage! Mais je ne m'en irai pas, je me coucherai en travers de la porte !» Déjà, il était honteux de son emportement, et il se fit plus doux. « C'est que je sais parfaitement ce qui se passe. Elle vient pour vous endoctriner, pour vous mettre contre moi, n'est-ce pas ? Oui, elle guette mes papiers, elle voudrait tout voler, tout détruire là-haut dans l'armoire. Je la connais, quand elle veut quelque chose, elle le veut jusqu'au bout. Eh bien, vous pouvez lui dire que je veille, que je ne la laisserai même pas approcher de l'armoire tant que je serai vivant. Et puis, la clé est là, dans ma poche. » En effet, toute sa terreur de savant traqué et menacé était revenue. Depuis qu'il vivait seul, il avait la sensation d'un danger renaissant, d'un guet-apens continu, dressé dans l'ombre. Le cercle se resserrait, et s'il se montrait si rude contre les tentatives d'envahissement, s'il repoussait les assauts de sa mère, c'était qu'il ne se trompait pas sur ses projets véritables et qu'il avait peur d'être faible. Quand elle serait là, elle le posséderait peu à peu, au point de le supprimer. Aussi, ses tortures recommençaient-elles. Il passait les journées en surveillance, il fermait lui-même les portes le soir, et souvent il se relevait la nuit, pour s'assurer qu'on ne forçait pas les serrures. Son inquiétude était que la servante, gagnée, croyant assurer son salut éternel, n'ouvrit à sa mère. Il croyait voir les dossiers flamber dans la cheminée. Il montait la garde autour d'eux, repris d'une passion souffrante, d'une tendresse déchirée pour cet amas glacé de papier, ces froides pages de manuscrits auxquelles il avait sacrifié la femme et qu'il s'efforçait d'aimer assez afin d'oublier le reste. Pascal, depuis que Clotilde n'était plus là, se jetait dans le travail. Essayait de s'y noyer et de s'y perdre. S'il s'enfermait, s'il ne mettait plus les pieds dans le jardin, s'il avait eu, un jour que Martine était montée lui annoncer le docteur Ramon, la force de répondre qu'il ne pouvait le recevoir, toute cette volonté âpre de solitude n'avait d'autre but que de s'anéantir au fond d'un labeur incessant. Ce pauvre Ramon, comme il l'aurait embrassé volontiers, car il devinait bien l'exquis sentiment qui le faisait accourir pour consoler son vieux maître. Mais pourquoi perdre une heure? Pourquoi risquer des émotions, des larmes d'où il sortait lâche? Dès le jour, il était à sa table, y passait la matinée et l'après-midi, continuait souvent à la lampe, très tard. C'était son ancien projet qu'il voulait mettre à exécution. Reprendre toute sa théorie de l'hérédité sur un plan nouveau, se servir des dossiers, des documents fournis par sa famille pour établir, d'après quelle loi, dans un groupe d'êtres, la vie se distribue et conduit mathématiquement d'un homme à un autre homme, en tenant compte des milieux. Vaste Bible! Genèse des familles, des sociétés, de l'humanité entière. Il espérait que l'ampleur d'un tel plan, l'effort nécessaire à la réalisation d'une idée si colossale, le posséderait tout entier, lui rendrait sa santé, sa foi, son orgueil dans la jouissance supérieure de l'œuvre accomplie. Et il avait beau vouloir se passionner, se donner sans réserve, avec acharnement, il n'arrivait qu'à surmener son corps et son esprit, distrait quand même, le cœur absent de sa besogne, plus malade de jour en jour et désespéré. Était-ce donc une faillite définitive du travail? Lui, dont le travail avait dévoré l'existence, qui le regardait comme le moteur unique, le bienfaiteur et le consolateur, allait-il donc être forcé de conclure qu'aimer et être aimé passe tout au monde? Il tombait par moments à de grandes réflexions. Il continuait à ébaucher sa nouvelle théorie de l'équilibre des forces, qui consistait à établir que tout ce que l'homme reçoit en sensation, il doit le rendre en mouvement. Quelle vie normale, pleine et heureuse si l'on avait pu la vivre entière dans un fonctionnement de machine bien réglé, rendant en force ce qu'elle brûle en combustible, s'entretenant elle-même en vigueur et en beauté par le jeu simultané et logique de tous ses organes. Il y voyait autant de labeur physique que de labeur intellectuel, autant de sentiments que de raisonnements, la part faite à la fonction génésique comme à la fonction cérébrale, sans jamais de surmenage, ni d'une part ni d'une autre, car le surmenage n'est que le déséquilibre et la maladie. Oui, recommencer la vie et savoir la vivre, bêcher la terre, étudier le monde, aimer la femme, arriver à la perfection humaine, à la cité future de l'universel bonheur, par le juste emploi de l'être entier. Quel beau testament laisserait là un médecin philosophe! Et ce rêve lointain, cette théorie entretenue, achevait de l'emplir d'amertume, à la pensée que, désormais, il n'était plus qu'une force gaspillée et perdue. Au fond même de son chagrin, Pascal avait cette sensation dominante qu'il était fini. Le regret de Clotilde, la souffrance de ne plus la voir, la certitude qu'il ne l'aurait jamais plus, l'envahissaient à chaque heure davantage d'un flot douloureux qui emportait